Dourge en votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui dans ce studio avec Roland Portige pour Les Enfants d'Ernetti, roman paru chez Fayard. Roland Portige, bonjour.
Bonjour.
Je vais dresser un petit peu votre portrait si vous le voulez bien. Oui. Vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques. Vous êtes docteur en philosophie, licencié en lettres. Vous avez travaillé entre autres à la télévision, enfin avec de nombreuses personnes, mais il y en a un que je ne peux pas éviter de citer, c'est Stelio Lorenzi. Ce sont les grands grands noms de la télévision de la grande époque, de la RTF et non pas de l'ORTF certainement.
Et ça ne nous rajeunit pas.
Ça ne nous rajeunit pas, mais lorsqu'on a comme moi la chance de regarder sur, d'être abonné aux chaînes de l'INA, par l'INA, aux émissions anciennes, c'est toujours très très agréable. Vous avez écrit, donc vous avez réalisé différentes émissions essentiellement scientifiques, et c'est pas un hasard, je pense, c'est par une formation.
Oui, non, c'est moi, la science m'a toujours passionné, et donc j'essayais de montrer ça dans mes livres aussi, quoi.
Et depuis 6 ans, depuis 2020, vous écrivez des romans, et le premier était déjà consacré à cette machine Ernetti dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, Les Enfants d'Ernetti, je le montre pour les personnes qui pourront voir cette émission sur YouTube. Donc, cette machine, est-ce qu'elle existe déjà? Posons-nous la question. Il faut déjà expliquer ce qu'est la machine Ernetti.
Alors, d'abord, il s'agit d'une machine tout à fait extraordinaire qui aurait été inventée par un prêtre italien qui s'appelait Pellegrino Ernetti, qui a réellement existé. Hein,
c'est un personnage lui, oui, c'est
historique, qui est mort, qui est né vers 1925 et qui est mort en 1994. Et ce personnage était un personnage qu'on voyait souvent au Vatican, qui avait même ses entrées au Vatican et presque ses entrées auprès du pape. Le pape s'intéressait beaucoup à ce monsieur Ernetti, qui était une sorte de touche-à-tout un peu exceptionnel et qui inventait plein de choses. Et il aurait inventé cette machine qu'il appelait un chronoviseur. Alors ce mot chronoviseur, il l'a pris dans l'auteur de science-fiction qui s'appelait Isaac Asimov.
Ah, très
célèbre. Isaac Asimov qui avait trouvé ce mot de chronoviseur. Alors c'est pas à proprement parler une machine à voyager dans le temps, hein, comme dans les films de science-fiction.
À photographier plutôt.
À voir dans le temps. Voilà, c'est une machine qui permettait de voir dans le temps sur un petit écran. Et évidemment, il était persuadé d'avoir inventé ça. Et il en a convaincu beaucoup de gens au Vatican, notamment le pape Pie XII. Alors, est-ce que cette machine a réellement existé? Oui, au moins à l'état de projet. C'est-à-dire qu'elle a sans doute eu un commencement de réalisation matérielle. Est-ce qu'elle marchait? Sans doute pas. Ernetti même, à la fin de sa vie, a avoué que la machine ne marchait pas, mais c'était une belle idée. Alors moi, évidemment, en tant que qu'écrivain, je me suis servi du privilège de l'écrivain qui consiste à se dire « et si c'était vrai ?» Parce que je trouve que l'idée est formidable. L'idée d'un prêtre qui a la possibilité d'aller voir dans le temps et dans le passé et de confronter ses croyances les plus fortes aux réalités crues de l'histoire, je trouve que c'était une idée formidable. Et je me suis dit « et si c'était vrai ?» Et donc, j'ai fait comme si c'était vrai. Alors, il se trouve que le pape Pie XII lui aurait réellement demandé, parce que le pape croyait, c'était pas un technicien, il croyait que cette machine existait, lui aurait demandé d'aller voir 2000 ans en arrière et de lui rapporter des preuves visuelles de l'existence du Christ. Évidemment, il l'a jamais fait, mais dans mon livre, il le fait.
Alors, parlons des précédents ouvrages, puisque le tout premier, d'ailleurs, les éditions Fayard l'indiquent, les précédents étaient parus chez Albin Michel, on peut le dire, puisqu'on peut toujours les trouver, de toute façon, je l'espère bien.
Oui.
Et plus de 100 000 lecteurs. Est-ce que ça ne donne pas le vertige lorsqu'on débute, parce qu'on peut dire que vous avez débuté récemment comme écrivain, savoir qu'on a déjà eu au moins 100 000 lecteurs?
Ah oui, ça c'est formidable. Et c'est, je dirais que c'est même très différent de la télé. Parce que la télé, Parfois, vous passez 6 mois à faire une émission, etc. Mais même avec Lorenzi, on passait des mois, parfois des années, à faire des émissions. Puis ça passe au soir et c'est fini. Un roman, c'est tout à fait autre chose. Ça reste inscrit souvent dans le cœur des gens. Ça touche les gens peut-être beaucoup plus facilement qu'une émission de télévision. Donc c'est en effet formidable quand ça marche. C'est pas toujours le cas. Et là, il se trouve que ce premier livre a vraiment très très bien marché parce que ce prêtre que j'ai voulu aussi très humain, et qui rêvait inventer cette machine si fascinante avec laquelle il va explorer non seulement la période évangélique, mais dans les romans suivants, il va aller beaucoup plus loin. Il va aller s'interroger sur la naissance du Dieu unique chez les Hébreux, et puis il va s'interroger aussi sur la création du monde. Enfin, vous voyez, ça permet de, et à chaque fois, de se dire qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que la réalité me dit, voilà. Et donc tout ça, c'est évidemment des histoires passionnantes et où j'ai entraîné mon père Ernetti. Et puis après, j'ai laissé passer 5 ans de maturation, et puis il y a eu une deuxième trilogie.
Ce qui débute maintenant, et celle-ci est d'autant plus passionnante que vous posez un postulat extraordinaire qui est, et si le Jésus n'avait pas été crucifié, il n'y aurait pas de christianisme.
Voilà, il se trouve que dans cette deuxième trilogie, ce que j'ai voulu faire, c'est moderniser un peu, parce que la machine d'Ernetti dans ma première trilogie, c'était une machine très années 50. Années 50, 60, c'était bricolé, etc. Là, j'ai voulu aller un peu plus loin et moderniser cette machine à l'heure de l'imagerie 3D, de l'intelligence artificielle, etc. C'est-à-dire que mes héros sont capables d'envoyer des avatars virtuels dans le temps. Pas de voyager eux-mêmes physiquement dans le temps, mais d'envoyer... Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent... à ce moment-là, interagir avec les personnages de l'histoire, un peu comme dans le film de James Cameron, ils envoient des avatars. Et il se trouve que ils ont aussi un adversaire qui, je dirais que je ne m'étends pas, mais qui lui est une sorte, lui aussi, il possède un chronomiseur et va essayer de changer l'histoire à sa manière.
Alors, vous avez deux héros, alors, il y a un prêtre et une jeune femme.
Voilà, il y a un prêtre qui est le père Marx, il possède ce
Marx,
nom,
oui, en plus,
qui fait rire tout le monde au Vatican, mais il se trouve que c'est son nom. Il est à la fois anglais et allemand, il s'appelle Christopher Marx, c'est un spécialiste de physique quantique, etc. Et puis, il est mis en relation avec une Ukrainienne qui s'appelle Nastia Bondarenko, qui elle-même est une Ukrainienne. Et une physicienne, pardon, et tous deux vont travailler pour le Vatican parce que le Vatican est obligé de s'affronter à un personnage qui est un milliardaire de la tech, vous savez, un peu genre Elon Musk.
Voilà, on pense beaucoup à lui.
Pardon ?
Moi, j'ai beaucoup pensé à lui en lisant votre
livre. Voilà, mais c'est pas Elon Musk, c'est quelqu'un d'encore plus idéologue et de plus dangereux que Elon Musk et qui est ce qu'on appelle aujourd'hui un néo-libertarien, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'en finir avec la démocratie. Et donc, je voulais donner à cette nouvelle trilogie un enjeu qui me paraissait intéressant, c'est défendre la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un système très fragile, hein, dans l'histoire. Et donc, alors pour en venir au Christ, parmi les mésaventures qu'ont mes personnages, il se trouve que, effectivement, ce milliardaire qui en veut au christianisme, parce que, à cause de sa vision égalitariste de la vie, a trouvé une solution assez étonnante pour se débarrasser du christianisme. Vous savez qu'à un certain moment, Ponce Pilate a eu à choisir entre Jésus et Barabbas.
Et c'est après qu'il va se laver les mains, d'ailleurs.
Et c'est après qu'il va se laver les mains. Et donc, il fallait qu'il choisisse celui qui, au moment de la fête de Pâques, serait gracié. Alors, dans l'histoire, c'est évidemment Barabbas qui a été gracié et Jésus qui a été crucifié. Et le christianisme est parti de là. Et il se trouve que il y a un petit changement dont est responsable le méchant de mon histoire, c'est qu'il fait en sorte que Jésus soit gracié.
Et dans ce cas-là, plus de christianisme.
Et dans ce cas-là, se pose, et c'est un énorme cas de conscience pour le Vatican et pour mon prêtre, c'est que Jésus gracié, il n'y a plus de crucifixion. Et s'il n'y a plus de crucifixion, il n'y a plus de christianisme. Donc, le pape va donner comme mission au prêtre qui a la possibilité d'interagir et de voyager dans le temps, il va lui donner comme mission de faire condamner Jésus. Vous imaginez, un prêtre vraiment sincère, croyant, pour qui Jésus est une figure tout à fait essentielle de sa construction personnelle, être obligé de faire condamner Jésus. Mais comment va-t-il faire? Est-ce qu'il va être obligé de l'accabler Et donc, pour lui, c'est vraiment un drame personnel. Et il va chercher la solution pour... faire condamner Jésus sans l'accabler. Et j'ai cherché moi-même la solution pendant 2 mois, pour vous dire la vérité, parce que, mettez-vous à ma place, comment faire? Comment faire si vous êtes un prêtre et que vous recevez la mission de faire condamner Jésus sans l'accabler, parce que vous êtes un croyant sincère? Ben, j'ai trouvé une solution, vous verrez. Évidemment, je ne vais pas vous la dire ici.
Non, il faut lire votre ouvrage, qui va être suivi de deux autres, d'ailleurs.
Qui va être suivi de deux autres. Le deuxième s'appellera Les Croisés d'Hernéti. Alors là, on ira encore plus loin dans le temps. On s'interrogera effectivement sur la naissance du Dieu unique et puis sur les reliques de Pierre. Et puis le troisième est d'autant plus intéressant que je tenais absolument, c'est ce qui a justifié cette deuxième trilogie, je tenais absolument à m'interroger sur les origines du chronoviseur. Ceux qui ont lu la première la machine Hernéti savent que tout est parti d'un physicien qui s'appelait Ettore Majorana, qui est un grand physicien italien qui est mort en 1938, et c'est à partir de ces équations que le père Hernéti a construit sa machine. Et simplement, le problème, c'est qu'on se posera, et si Majorana n'avait pas tout dit? Si, effectivement, il y avait dans cette machine, dans l'utilisation systématique de cette machine, quelque chose de diabolique qui finit par détraquer la temporalité. Enfin, je vous laisse la surprise, mais la grande question que mon héros va se poser dans le troisième tome, c'est de savoir comment se débarrasser du chronoviseur.
Bien sûr. Et pour revenir au choix entre Jésus et Barabbas, vous expliquez qu'il y a eu en fin de compte des personnes amenées par ce méchant de l'histoire pour inciter les gens à dire c'est Barabbas qu'il faut sauver.
Et oui.
Vous truquez le vote, entre guillemets.
Et oui, parce que en vérité, mes héros sont des fantômes numériques, donc ils ne peuvent pas agir physiquement. Ils n'ont pas pu voyager dans le temps. C'est ce qu'ils envoient dans le temps, ce sont des avatars numériques, des sortes de fantômes. Donc, ils sont obligés de passer par des intermédiaires et donc de trouver le moyen d'accabler Barabbas pour sauver Jésus. C'est ça son véritable nœud de l'histoire. Comment accabler Barabbas? Essayer d'imaginer que, par exemple, il avait prévu, juste après avoir été gracié, s'il avait été gracié, de renverser Pilate parce qu'il se serait allié avec les ennemis de Rome, etc. Et donc, Pilate, évidemment, apprenant ça, ne peut pas supporter de libérer Barabbas et donc finit par le condamner et par gracier Jésus. Mais c'est exactement ce qu'il faut changer.
Mais Barabbas, il y a eu un film, c'était Anthony Quinn, si mes souvenirs sont exacts.
Oui, un film de Richard Fleischer qui date de 1962, je me souviens très bien, qui est un très beau film, un très beau film d'après un roman du prix Nobel, par la Jervis, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui est un très beau film où on montre un Barabbas qui ne comprend rien. Il ne comprend pas. Et à la fin, il croit que les chrétiens veulent brûler Rome. Alors lui aussi, il s'est mis à brûler Rome. Enfin, c'est un très beau film, très humain, peu connu parce que c'est passé dans la série des grandes productions de l'époque. Et en fait, c'est un...
Oh, il est passé à la télévision, parfois.
Oui, mais je veux dire, on lui donne pas l'importance qu'il a. Moi, je trouve que c'est un film beaucoup plus intéressant que ce qu'on a cru. À une certaine
et époque. Dans votre ouvrage, on voit Pilate comme il était probablement dans la réalité, parce que très très souvent, on présente Pilate chez les chrétiens d'Orient, je crois même qu'il est considéré comme étant un saint, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais nous allons en parler dans un tout petit instant, après un communiqué, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Roland Portige pour Les Enfants d'Hernéti, roman paru donc chez Fayard, et le premier d'une trilogie. Donc oui, nous disions juste à l'instant que Ponce Pilate n'était pas le personnage que les chrétiens d'Orient voudraient montrer, parfois presque comme un saint.
Oui, mais vous savez, moi j'ai écrit auparavant un livre sur Bérénice. L'avantage de Bérénice, c'est qu'elle son règne s'est étendu en Judée. Elle a pratiquement connu tous les procurateurs. Et Rome s'ingéniait, je ne sais pas pourquoi, à envoyer en Judée les pires des voyous. Pilate n'était peut-être pas le pire de tous, mais il était quand même quelqu'un de stupide. Je crois que tout le monde s'accorde à penser ça, et pas du tout un personnage que... Ensuite, évidemment, la légende s'en est emparée, en particulier avec sa femme Claudia Procula, qui se serait convertie au chrétien. Tout ça, c'est la légende. Ce que nous dit l'histoire et ce que nous savons à travers les écrits de Flavius Joseph, qui sont quand même tout à fait fiables, c'est que Barabbas était vraiment quelqu'un obsédé par le... Il n'avait qu'une envie, c'est de s'en aller. Il n'aimait pas ce pays, il n'avait qu'une envie, c'est de rentrer en Gaule, de finir sa retraite, de prendre sa retraite en Gaule, et puis d'abandonner ces Judéens qui comprenaient... Rome ne comprenait pas ces gens. Il ne comprenait pas ces gens qui avaient qu'un seul Dieu. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Dans Les Enfants d'Ernesti, vous faites intervenir un personnage historique contemporain, c'est le pape lui-même.
Oui.
Le pape Léon XIV, l'actuel pape.
Oui, je me suis interrogé pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je dis simplement le pape, et après tout, comme on n'en dit pas de mal, pas du tout, au contraire, et que j'essaie d'en faire un personnage très positif, je me suis dit ça va sans doute pas lui porter ombrage. Et puis voilà, pour vous dire la vérité, quand j'ai écrit ce livre, c'était le pape François. Et vous... puis, au dernier moment, quand le pape François est mort, ben, j'ai utilisé la magie de l'ordinateur qui fait que j'ai fait remplacer, et j'ai remplacé François par Léon XIV. Oui.
Avez-vous pensé envoyer le roman au Vatican ?
Non, quand même pas. Mais je vous dirais que le premier, la machine à Ernesti, avait été beaucoup apprécié par un évêque, l'évêque de Gap, qui m'avait écrit pour me dire, ah oui, il connaissait vraiment très bien, il avait bien connu Montini, c'est-à-dire le futur pape Paul VI,
bien sûr,
etc. Et il trouvait que c'était très bien informé. Et bon, ça l'avait amusé, évidemment, l'histoire d'Ernesti, qu'il connaissait très bien. Hein. Vous savez, en Italie, il est connu comme le loup blanc, Ernesti.
Beaucoup plus qu'en France.
Mais c'est bizarre, il n'y a pas eu de roman en Italie, enfin, pas à ma connaissance. Et il y a beaucoup de livres un peu ésotériques sur Ernesti, qui auraient... contacter des extraterrestres, je ne sais pas quoi. Mais ils avaient apprécié ça. Et puis, j'ai envoyé ça à quelques prêtres que je connais et qui avaient beaucoup aimé parce que c'était très informé historiquement. Mmh. Vous savez, le Jésus que je raconte dans La machine Ernesti est vraiment basé sur... je fais plusieurs émissions avec François de Closet sur l'archéologie.
Mais vous avez travaillé avec François de Closet, d'ailleurs.
Ah, 15 ans. 15 ans, on faisait beaucoup d'émissions de sciences et quelques émissions d'archéologie. Et on a fait quelques émissions en Israël sur l'archéologie biblique. Et en particulier, une émission entière sur Jésus. Et donc, j'ai même fait un secret d'histoire sur Jésus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et l'avantage de la télé, ce qu'il y a de formidable avec la télé, c'est que vous arrivez quelque part et vous avez les meilleurs spécialistes de la question qui sont là pour tout vous raconter.
Mais 100 000 lecteurs des salons où vous avez dû signer X fois,
oui.
Est-ce qu'il y a des lecteurs qui vraiment vous disent « elle doit exister cette machine », enfin il y a des gens persuadés?
Oh, c'est possible, la plupart du temps ils font quand même le partage. J'ai eu beaucoup de lecteurs enthousiastes sur la première trilogie.
Bah, sinon on n'arrive pas à 100 000 lecteurs si on n'est pas...
Voilà. Mais cette machine, alors, est-ce qu'elle a existé? Sans doute, peut-être. Est-ce qu'elle a marché? Ça, sans doute pas. Mais est-ce qu'on pourrait la voir? Peut-être bientôt. Parce que figurez-vous que le Vatican est tenu à 75 ans de secret. Quand on fait une sorte de rétro-calendrier avec la naissance de la machine Ernesti telle qu'on l'imagine, ça fait 75 ans. Donc, beaucoup de gens se disent peut-être dans les 2-3 ans à venir, le Vatican consentira à montrer cette machine, si tant est qu'elle existe, mais c'est autre chose de savoir si elle a marché.
Pour écrire, est-ce que vous écrivez dans des conditions particulières? Il y a des auteurs qui écrivent que le matin, d'autres la nuit, il leur faut le silence, d'autres de la musique. Dans quelles conditions écrivez-vous?
Il se trouve que quand j'ai travaillé avec Lorenzi, on avait fait une émission sur l'affaire Dreyfus avec Armand Lanoux. Et Armand Lanoux, qui était un écrivain professionnel, évidemment, un grand, voilà, il m'avait expliqué comment il faut écrire. Il m'avait dit, si tu un jour tu écris, écris comme faisant un métier. C'est-à-dire, tu commences le matin à 9h du matin, tu t'arrêtes à midi, tu déjeunes, tu reprends à 14h, tu t'arrêtes à 18h. Mais tu t'obliges à faire ça tout le temps. Et plutôt que de faire ça, de manière poétique, quoi. Hein, et ben c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'en faire. Alors, moi qui suis retraité aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé à la télévision, moi qui suis retraité, c'est un second métier. C'est un second métier, mais c'est vrai que le matin, il faut se lever, être à l'heure, commencer à 9h, Et puis, s'arrêter à 18h pour se reposer un peu, mais faire ça tous les jours. Tous les jours. Et je pense que c'est vraiment le secret de l'écriture, c'est d'écrire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Est-ce que vous verriez d'ailleurs certains de vos ouvrages consacrés à Arnetti adaptés au cinéma ou à la télévision? Ce serait peut-être... Il faudrait du grand spectacle.
Et voilà, il y avait un projet. Il y avait un projet, l'éditeur avec qui j'avais fait la première trilogie, il y avait Albin Michel, où il y avait aussi Versilio, avait essayé de lancer j'ai même écrit un traitement pour faire une série, mais ça coûtait très cher. Alors ensuite, ils m'ont demandé d'oublier l'Italie, d'oublier Venise, j'ai dit, écoutez, vous voulez qu'on passe tout ça à Paris? Pourquoi pas? Ça coûterait moins cher. Mais c'était pas très sérieux, quoi.
Mais il y a quand même, ça serait quand même pas mal de voir au cinéma, je pense.
Ah, ça serait formidable.
Fait par quelqu'un comme Lucas ou Spielberg, pourquoi pas, là.
Oui, mais bon, vous savez, moi j'écris de manière très cinématographique, hein, vous savez.
C'est des formations professionnelles.
Ah ben oui, comment il s'appelle? Flaubert, il disait, il avait son gueuloir, oui, pour savoir si une phrase tenait debout, etc. Moi, mon gueuloir, il est cinématographique. C'est-à-dire que je m'interroge pour savoir, quand je ne sais pas, par exemple, comment je vais continuer une scène, je me dis, qu'est-ce qui se passerait au cinéma? Et j'essaie d'imaginer au cinéma. Et vous savez, il y a des voilà, on finit toujours par trouver. On peut pas faire n'importe quoi au cinéma. Hein, donc voilà, si c'était un film, ben ça se passerait de telle ou telle manière. Mon gueuloir, il est cinématographique.
Il faut, pour avoir écrit cette première trilogie et cette seconde trilogie, puisque vous m'avez confié que pratiquement le troisième volume est déjà même écrit, mais il sortira, bien sûr, il faut un an entre chacun.
Ils sortiront plus tard.
Mais il faut avoir quand même bien lu les textes bibliques et les textes sacrés.
Je suis passionné par ça. Pour vous dire la vérité, je suis passionné par l'histoire des religions, sans être moi-même un croyant fanatique, mais je suis passionné par l'histoire des religions, passionné par l'histoire du christianisme, que je connais vraiment très très bien, parce que je trouve que c'est vraiment une période de l'histoire où quelque chose... C'est noué. Et puis, l'histoire des religions, ben, ça nous habite tous, hein, quelle que soit la foi laquelle on est assujetti. Même si on n'a pas de foi. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup lu Ernest Renan, par exemple, qui est une chose merveilleuse, merveilleuse. Je conseille à chacun, en plus c'est une langue magnifique, à chacun qui, si on ne l'a pas lu, de lire son histoire du christianisme. Sa vie de Jésus est magnifique, même si on n'est pas d'accord avec les thèses de Renan. Mais c'est vraiment un magnifique roman. Non, je suis passionné par l'histoire des religions, et le fait est que, malheureusement, et heureusement, enfin, je ne sais pas, les religions jouent un très grand rôle dans notre
vie. Mais on oppose souvent croyance et science, et vous êtes passionné par les deux.
Par les deux, et je pense que la science a beaucoup à nous raconter sur les religions. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on est allé avec François de Closet en Israël pour s'interroger sur la naissance du judaïsme et sur la naissance du christianisme, grâce à ce que la science peut nous en dire, et elle peut nous en dire beaucoup.
Et avez-vous découvert des choses qui seraient totalement inconnues du grand public?
Oui, mais j'en parle dans le deuxième, le deuxième tome, mais je ne vais pas vous dire.
Donc ça sera pour 2027?
Ça sera pour 2027.
Mais donc des éléments réels que vous avez réellement
qui m'ont été confiés par le numéro 2 de l'école biblique de Jérusalem, quelque chose d'énorme. Ah. Quelque chose d'énorme, dont je parle dans le deuxième tome, et qui a beaucoup bouleversé les archéologues dans les années 90.
Eh bien, nous en saurons plus l'année prochaine. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, ça va vraiment très très vite. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les enfants d'Arnetti », l'auteur est donc Roland Portiche, c'est paru aux éditions Fayard, un ouvrage qui fait combien de pages? Qui fait 359 pages. Il y aura donc les deux suivants, ça fera pratiquement un millier de pages le total.
Pareil.
Et c'est un ouvrage du 21,90€, c'est un prix tout à fait bien, parce que pour pas cher, on passe vraiment une ou deux soirées pour ceux qui lisent plus ou moins rapidement, mais vraiment, on voyage dans le temps. Et puisque nous étions dans le temps, ben nous allons terminer avec la chanson de Charles Aznavour, « Le temps n'est rien d'autre ». Merci à vous, Roland Portiche.
Merci à vous.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va,
le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns.